Bonjour Antoine Mercier.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. 13 hauts responsables de l'exécutif séparatiste de la région de Catalogne arrêtés ce matin par la garde civile espagnole, parmi lesquels les principaux organisateurs de ce référendum sur l'indépendance qui est prévu toujours pour le 1er octobre. Correspondance dans un instant avec Sébastien Berriot. À la tribune des Nations Unies, le président iranien devrait répondre cet après-midi aux attaques de Donald Trump, notamment sur l'accord nucléaire. Analyse de Marie-Pierre Véraud dans cette édition. En France, le ministre de la Cohésion des Territoires, Jacques Mézard, présente en ce moment la stratégie logement du gouvernement. Le ministre affirme vouloir libérer la construction de tous les carcans qui aujourd'hui l'étouffent, selon lui. Précision de Marie Viennot. Le parti socialiste contraint de vendre son siège à Paris, l'hôtel particulier de la rue Solferino, qui abritait le PS depuis 1981. Évocation dans cette édition avec Frédéric Saïs. Et puis la ville de Mexico, frappée hier par un violent séisme. Il y a au moins 217 morts dans le centre du pays, dont 20 et un enfant enseveli sous leur école. L'invité de la séquence interview, Aliza Bin Noun, qui est ambassadrice d'Israël en France. Et puis donc dans la dernière partie de la grande table, Olivier Jesbert.
Il analyse la société post-guerre froide et l'illusion d'un monde sans guerre. Notre invité, le politologue Andrei Gratchov, sera avec nous à partir de 12h55 avec ce nouvel essai qu'il signe, un nouvel avant-guerre chez Alma Éditeur. Et puis on reviendra bien sûr sur l'Assemblée Générale des Nations Unies hier avec lui.
C'est donc un véritable coup de force de Madrid ce matin pour tenter d'empêcher ce référendum prévu le 1er octobre en Catalogne. La garde civile qui entre dans les bureaux du gouvernement régional, les policiers qui arrêtent le bras droit notamment du vice-président catalan qui est en charge de l'économie, qui est en première ligne pour l'organisation de cette consultation interdite, on le sait. Sébastien Berriot, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes sur place en Catalogne, à Gérone précisément. La nouvelle s'est répandue donc comme une traînée de poudre dans les rangs des militants indépendantistes qui ont commencé à affluer aux abords du siège du département d'économie. Il y a plusieurs centaines d'entre eux qui crient « dehors, les forces d'occupation, dehors ». Situation, on le voit donc, extrêmement tendue ce matin en Catalogne.
Oui, effectivement. Alors, pour ce qui est de Barcelone, tout s'est passé très vite ce matin. En quelques minutes, ce sont plusieurs dizaines d'agents de la Guardia Civil qui se sont déployés dans les bâtiments du gouvernement catalan, des ministères, des administrations et également la présidence de la Generalitat. Une douzaine de personnes ont été arrêtées, dont un secrétaire d'État qui a été interpellé sur la route au volant de sa voiture. Le motif officiel de cette opération, c'est évidemment le référendum. La justice espagnole veut vérifier que la Generalitat dans ses ministères n'entrepose pas du matériel et des documents pour préparer le scrutin qui est donc considéré comme illégal par Madrid. Les indépendantistes, eux, ont une autre interprétation. Ils accusent Madrid d'avoir utilisé la Guardia Civil pour tout simplement prendre le contrôle des ministères catalans. La Guardia Civil qui, d'ailleurs, ce midi est toujours à l'intérieur d'un certain nombre de bâtiments. La population, vous l'avez dit, a réagi de manière spontanée. Plusieurs ministères sont en ce moment encerclés par plusieurs centaines de manifestants. C'est vraiment une situation totalement inédite que la Catalogne vit. Le statut d'autonomie est toujours en place officiellement, mais c'est un petit peu comme s'il avait été mis entre parenthèses.
Alors dans ces conditions, une question évidemment sur ce référendum, est-ce qu'il va pouvoir se tenir selon vous ?
Ce qu'on peut dire, c'est qu'au fur et à mesure que les jours passent, les conditions d'organisation du scrutin deviennent de plus en plus compliquées. Le gouvernement espagnol est en train de absolument tout verrouiller. Les perquisitions se sont multipliées ces derniers jours. Elles se poursuivent dans des imprimeries, par exemple, qui fabriquent le matériel électoral. Hier encore, 46 000 convocations pour les assesseurs du référendum ont été saisies par les forces de l'ordre. Et puis, il y a cette pression qui se renforce aussi sur les maires qui soutiennent le référendum. Ce matin, par exemple, à Gérone, où je me trouve, l'une des grandes villes de Catalogne, la maire Marta Madrenas était convoquée dans le bureau du procureur pour s'expliquer sur son soutien au référendum. Elle a été accompagnée jusqu'au palais de justice par plusieurs milliers de manifestants. À sa sortie, elle a réitéré son soutien au scrutin, alors qu'à Madrid, on continue de répéter, sans donner plus de détails, que le scrutin n'aura pas lieu, laissant craindre peut-être une intervention des forces de l'ordre le 1er octobre.
Sébastien Berriot, merci beaucoup à Gérone.
La suite de l'Assemblée générale des Nations Unies, Antoine Mercier. Aujourd'hui à New York, le président iranien doit prendre la parole et répondre sans doute aux accusations lancées hier du haut de la tribune par le président américain.
Donald Trump qui s'est aussi fermement, qui s'en est pris fermement aussi à la Corée du Nord, qualifiée de régime vicieux. Si les États-Unis sont contraints de se défendre ou de défendre leurs alliés, ils n'auront d'autre choix que de détruire totalement, a-t-il dit, la Corée du Nord. C'est ce qu'affirmait donc Donald Trump cet après-midi. C'est le président iranien qui effectivement va s'exprimer à la tribune, répondre à Donald Trump qui affirmait que l'Iran était un État voyou qui déstabilise le Moyen-Orient et qui exporte la violence, le bain de sang et le chaos, discours qualifié de haineux et ignorant par le chef de la diplomatie iranienne. La question de l'accord sur le nucléaire, en tout cas, sera au menu d'une réunion aujourd'hui à New York des pays signataires de ce texte, qui date de 2015, rappelons-le. Ce sera la première rencontre entre le secrétaire d'État américain Rex Tillerson et son homologue iranien depuis le changement d'administration aux États-Unis. Les États-Unis qui ne resteront pas dans cet accord si des changements ne sont pas introduits, car le texte, a dit M. Tillerson, doit vraiment être révisé. Marie-Pierre Véraud, bonjour.
Bonjour Antoine.
Alors, de quelle révision parlent précisément les États-Unis concernant cet accord donc nucléaire avec l'Iran, et est-ce qu'il est réaliste d'ouvrir aussi des négociations?
Bien, l'un des défauts majeurs de l'accord pour les États-Unis, c'est qu'il court sur 10 ans, certaines de ses dispositions tombant à partir de 2025, notamment les restrictions sur les centrifugeuses. Nous pouvons quasiment commencer le compte à rebours pour le moment où les Iraniens reprendront leur capacité nucléaire militaire, s'insurge ainsi Rex Tillerson. Washington exigerait donc une extension des contrôles au-delà de la date butoir. C'est une piste qu'explore la France et qu'a évoqué Emmanuel Macron lors de son entretien avec le président iranien Rouhani à son arrivée à New York. Mais il a pu mesurer à quel point l'Iran est hostile à une mise sous tutelle indéfinie. C'est une ligne rouge, constate la diplomatie française. Une autre possibilité serait de muscler les inspections de l'Agence internationale de l'énergie atomique, d'exiger des rapports plus détaillés ou encore d'inspecter de nouveaux lieux comme des centres de recherche sur l'atome ou des universités, voire des bases militaires. Là encore, l'Iran sera très chatouilleux sur cette question et la mise en cause de sa souveraineté nationale. Mais au-delà de l'accord, les États-Unis ont aussi des exigences concernant les essais balistiques iraniens sur lesquels ne porte pas le texte de 2015. Et surtout, Donald Trump et Rex Tillerson n'ont de cesse de dénoncer la violation de l'esprit de cet accord par l'Iran, un accord qui est censé contribuer positivement à la paix et à la sécurité de la région. Washington dénonce les ingérences de Téhéran, du Liban à la Syrie ou au Yémen. En fait, ce n'est pas l'accord sur le nucléaire que vise finalement Donald Trump, c'est bien de contenir les velléités iraniennes dans la région, ce qui rend d'autant plus difficile la recherche d'un compromis.
Alors justement, voilà pour les revendications, on va dire, du côté des États-Unis, mais la question centrale est de savoir s'il est même possible de réouvrir cette négociation à l'heure qu'il est.
Mais en fait, personne ne le souhaite, ni les autres signataires que les États-Unis, les quatre autres membres permanents du Conseil de sécurité, ni l'Allemagne, ni l'Agence internationale de l'énergie atomique qui en assure le suivi, ni le secrétaire général de l'ONU, ni bien sûr l'Iran. Leur argument, on ne peut s'asseoir ainsi sur sa signature puisque Téhéran, selon l'AIEA, respecte bien ses engagements. Ce serait ouvrir la boîte de Pandore, dit-on à Paris, où l'on plaide plutôt pour des compléments mais pas une renégociation formelle. Soyons plus exigeants, dit le président français, mais en rien ne détricotons ce que les accords précédents ont déjà permis de sécuriser.
Merci Marie-Pierre Véraud. On salue l'invité de la séquence interview, l'ambassadrice d'Israël en France, Aliza Bin Noun. Bonjour madame.
Bonjour.
Donc hier à New York, effectivement, Emmanuel Macron estimait que bon, l'accord n'était peut-être pas absolument parfait, mais qu'il valait mieux que rien, que pas d'accord du tout. Vous soutenez qu'il vaudrait mieux pas d'accord du tout que cet accord-là? Et est-ce que s'il n'y avait pas d'accord, l'Iran ne pourrait pas plus facilement accéder éventuellement à l'arme nucléaire?
La position d'Israël en ce cas est très très claire, et cette position était véhiculée et en Europe et vis-à-vis des États-Unis, et c'est aussi c'est exprimé de manière très 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 claire hier dans le discours du Premier ministre Benjamin Netanyahu. Pour Israël et l'Iran, et la menace numéro une est sur, en ce qui concerne notre existence. C'était dit il y a une semaine par le ministre de la Défense israélien. Il a dit que l'Iran, c'est le pays qui menace Israël. Et en ce qui concerne le dossier nucléaire, Benjamin Netanyahu, il était très clair les dernières années, même il y a 2 ans, quand on était devant la signature de cet accord, que ce n'est pas un bon accord, parce que exactement pour les raisons qui étaient mentionnées, et d'ailleurs, qu'il y a un certain temps et pour cesser cet accord, après et toutes les restrictions se seront soulevées. Et ça sert l'Iran, de promouvoir son engagement en ce qui concerne les essais de missiles balistiques, en ce qui concerne le soutien des éléments terroristes, notamment le Hezbollah et au Liban, mais aussi le Hamas dans la bande de Gaza. Il faut dire que les relations entre l'Iran et le Hamas se sont renforcées le dernier an, et les déclarations et les manifestations sont très très agressives et par rapport à la sécurité d'Israël. Alors pour Israël, et même s'il y a un accord, c'est un accord qui est très très problématique. Netanyahu a parlé de Sunset Clause, c'est exactement le paragraphe qui est, lorsqu'il se sera soulevé, l'Iran sera libre d'avancer leur projet nucléaire, et en même temps l'Iran reçoit la légitimité internationale. On est très intéressé en Europe de faciliter, d'avancer, de développer les liens économiques. Et dans la région, l'Iran est un pays qui est très très problématique, pas vis-à-vis par rapport à Israël, mais aussi par rapport aux pays du Golfe.
Elisabeth Noun, merci beaucoup. On vous retrouve tout à l'heure pour la séquence interview. Peut-être un petit mot d'André Gratchev qui nous a rejoint dans ce studio, qui l'a invité à la dernière partie de la grande table. Est-ce que vous pensez qu'un accord comme ça, ça pourrait, en quelques mots, ça pourrait se renégocier, ou est-ce que c'est totalement exclu, selon vous, diplomatiquement ?
Bon, écoutez, il faut déjà partir de la situation actuelle. Pour l'instant, il paraît que les États-Unis sont en quelque sorte le cavalier seul. La seule partie qui avait participé à la rédaction de l'accord. Et donc, comme il s'agit d'un accord international, on voit mal comment cet accord peut être annulé ou suspendu. La position de la Russie, évidemment, est assez particulière, vu le fait que, pour la Russie, l'Iran est un pays voisin. Et donc, voilà, on peut bien comprendre ce que les Russes seront peut-être les derniers à soutenir les Américains dans les tentatives de sa révision.
André Gratchev, merci. On vous retrouve donc dans la dernière partie de la grande table. Je rappelle que vous êtes écrivain, essayiste, ancien porte-parole de Gorbatchev.
Midi 42 sur France Culture, la suite de votre journal. Antoine Mercier. Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des Territoires, présente en ce moment la stratégie logement du gouvernement. L'idée est de construire davantage tout en faisant des économies.
Le ministre affirme vouloir effectivement libérer la construction de tous les carcans qui aujourd'hui l'étouffent. Il annonce un abattement significatif pour ceux qui très rapidement pourront mettre leur terrain sur le marché. On est en ligne avec Marie Viennot en direct. Bonjour.
Bonjour Antoine.
Est-ce qu'on a une idée de savoir, sur le point de savoir, comment le gouvernement compte faire mieux avec moins ?
Écoutez, pour faire mieux avec moins, il faut passer d'un cercle vicieux à un cercle vertueux, hein, rien de moins, c'est simple à dire. Et cela tient en trois phrases prononcées par le ministre de la Cohésion des Territoires. 1. Libérer la construction. 2. Favoriser les procédures. 3. Lever les freins. Alors concrètement, me direz-vous, eh bien je n'ai pour le moment pas plus de détails à vous donner, hormis celui que vous avez déjà donné Antoine, car le ministre et son secrétaire d'État parlent depuis 20 minutes et ils sont encore à détailler les changements. Ils ne sont pas encore à détailler les changements concrets, mais plutôt à énoncer le constat. La politique de logement ne répond pas aux besoins de la population, et également à décrire la méthodologie qui a abouti au projet de loi. On remarquera cependant que pas une fois pour le moment n'a été évoquée la question budgétaire et la nécessité de faire 1 milliard d'euros d'économies dès cette année sur la politique du logement. Le premier axe de cet objectif, c'est donc construire plus, mieux et moins cher, et pour cela libérer le foncier, le rendre disponible. Il y a donc cet abattement, donc mesure concrète pour toutes les personnes qui disposent d'un terrain dans les zones tendues, et il pourra même, cet abattement fiscal pourra même aller jusqu'à 100% si c'est pour construire un HLM. Deuxième mesure également concrète, les impôts seront réduits pour les entreprises qui cèdent des bureaux. Voici donc deux mesures concrètes et un peu nouvelles qui ont été annoncées alors que je vous parle. On attend encore maintenant les détails sur la baisse des aides au logement, sur les moyens que le gouvernement se donne pour que les loyers baissent existent également dans le privé comme dans le parc HLM et également plus largement pour que le rapport de force entre l'offre et la demande s'inverse ou se régule, notamment dans les zones tendues.
Voilà, et le prêt à taux zéro et ainsi que le Pinel sont prolongés 4 ans mais plus ciblés. Dernière déclaration donc du ministre. Merci beaucoup Marie Viennot. C'est tout un symbole, le Parti Socialiste qui est contraint de vendre son siège à Paris. Le trésorier du PS l'a annoncé hier soir, décision prise de vendre cet hôtel particulier, 3000 mètres carrés, rue de Solferino, qui abritait donc le PS depuis 1981 et qui va être suivi d'un plan de licenciement. 1981-2017, ça fait 48 ans, qui ont fait passer le PS du socialisme triomphant, parvenant pour la première fois à l'Élysée, au socialisme, avec moins de couleurs, défait par plusieurs revers électoraux. L'ancien député du Val-d'Oise, Philippe Doucet, essaye quand même de faire de mauvaises fortunes bon cœur, puisqu'il dit « c'est l'occasion de rebondir, il faut écrire une nouvelle histoire ». Il y a certains qui souhaitent au PS s'installer en banlieue, dans les quartiers populaires, au plus près de l'électorat, Frédéric Saïs.
De l'électorat théorique, en tout cas, Antoine, c'est la double dimension de cette vente, économique et symbolique. Économique, car ce bâtiment acheté en 1986 par le PS est estimé à entre 40 et 70 millions d'euros. Ce sont 3000 mètres carrés à quelques pas de la Seine, entre le musée d'Orsay et l'Assemblée nationale, dans l'un des secteurs les plus cossus de la capitale, avis aux intéressés. Le PS espère ainsi pouvoir éponger ses pertes liées aux défaites électorales jusqu'à l'année dernière. Il touchait 25 millions d'euros par an en dotation publique. Après la Bérésina des législatives, ce chiffre est tombé à 8 millions d'euros annuels. Cela dit, les socialistes auraient pu se maintenir dans ces lieux tout en se serrant davantage la ceinture par ailleurs, mais l'enjeu était aussi symbolique. Comment s'adresser effectivement aux classes moyennes et populaires depuis un lieu où elles en sont de fait exclues? Les recherches pour un nouveau siège s'orientent désormais vers un arrondissement plus accessible de la capitale, mais la proximité avec le centre de Paris reste un critère important selon le trésorier Jean-François Debat. Plusieurs figures n'ont pas à cacher leur mécontentement. Stéphane Le Foll dénonce en substance un raisonnement simpliste. François Rebsamen demande lui un vote des militants. Cette décision ne ravit pas tout le monde car c'est un patrimoine historique qui se perd. C'est surtout un symbole de déclassement. Peu à peu, ces dernières années, les grands partis politiques ont quitté les arrondissements les plus centraux de la capitale. À deux pas de la rue de Solferino se trouvait jadis le siège du RPR, transféré ensuite dans le 8e arrondissement de Paris, puis transféré à nouveau dans le 15e arrondissement. Le Front National, lui aussi en proie à des difficultés financières, a dû vendre son siège de Saint-Cloud, surnommé le paquebot, et se rabattre vers la commune plus abordable de Nanterre. Europe Écologie Les Verts a quitté le 10e arrondissement pour Montreuil, en petite couronne parisienne. Le mouvement est général et marque de fait une forme de rétrogradation des institutions politiques dans l'espace public. Un départ de Solferino, oui, mais pour mettre quoi à la place? C'est la question suivante. Le bâtiment peut attirer des investisseurs étrangers, de grands groupes, de secteurs en dynamique comme la banque ou l'assurance, mais le PS a déjà indiqué qu'il se réservait le droit de refuser l'offre la plus alléchante, bien conscient du symbole qu'on pourrait lire derrière cette transaction.
Combien ça vaut, Frédéric Saïs, le siège du PS?
Entre 40 et 70 millions d'euros, si vous avez les moyens, Antoine, c'est pour vous.
Merci Frédéric Saïs, je ne suis pas sûr.
Sans rapport avec ce qui précède, la première action judiciaire française sur le fondement du délit d'obsolescence programmée. Plusieurs fabricants d'imprimantes sont visés par une plainte lancée par une association spécialisée.
Et oui, l'association accuse les fabricants concernés de raccourcir délibérément la durée de vie des imprimantes et des cartouches. Or, la loi française sanctionne théoriquement depuis 2015 maintenant l'obsolescence programmée qui désigne cette volonté de se supposer de certains industriels de fabriquer des produits à la durée de vie limitée dans le temps. Florence Durand.
L'association HOP, halte à l'obsolescence programmée, a travaillé durant plusieurs mois pour mettre à jour ses techniques qu'elle dénonce dans une étude très documentée sur son site internet. Elle pointe notamment deux cas de figure. L'imprimante vous dit que la cartouche est vide, que vous ne pouvez donc plus imprimer. Or, il n'y a pas de sonde à l'intérieur qui calcule le niveau d'encre, mais une petite puce qui compte et définit un nombre arbitraire de copies. En ouvrant la cartouche, on s'aperçoit qu'il reste de l'encre, et c'est loin d'être anodin quand on sait que le prix de cette encre dépasse les 2000 euros au litre, deux fois plus cher, Antoine, que le numéro 5 de Chanel. Autre technique, celle des éléments faussement annoncés en fin de vie, notamment les tampons absorbeurs, une mention qui a pour effet de bloquer bloquer la machine, le réparateur vous conseillera là très certainement de la changer. Alors que selon Hop, on peut trouver sur Internet des logiciels qui permettent de débloquer le système et de continuer à imprimer durant de nombreuses années. L'association a donc décidé de porter l'affaire en justice. Elle s'appuie sur la loi sur la transition énergétique de 2015 qui a institué ce délit d'obsolescence programmée, passible de 2 ans de prison et 300 000 euros d'amende. Reste à connaître les suites judiciaires qui seront données à cette plainte car le texte est bien précis. Il va falloir prouver que les fabricants ont délibérément, et c'est le mot qui est important, délibérément cherché à réduire la durée de vie du produit.
Merci beaucoup Florence Turme, 12h49. On revient vers notre invitée, l'ambassadrice d'Israël en France, Aliza Ben Noun. Vous avez évidemment suivi, comme nous, ces discours à la tribune de l'ONU hier, entre l'unilatéralisme de Donald Trump et le multilatéralisme qui est prôné par le président français. Où se situerait Israël plutôt ?
Et par rapport à Israël, les relations entre Israël et les États-Unis sont de très bonnes relations. Il s'agit des relations stratégiques. Et dès que cette administration nouvelle américaine a pris le pouvoir, on peut voir vraiment des changements positifs par rapport à la politique américaine et à l'ONU. Et l'ambassadrice dynamique Nikki Haley, il s'exprime souvent et par rapport à la situation à l'ONU où Israël se trouve souvent et maltraité, si on peut le dire, discriminé. Et pour, encore une fois, les relations entre Israël et les États-Unis, ils sont des relations historiques, sont des relations spéciales. Et ce n'est pas un grand secret que les États-Unis sont l'allié numéro un d'Israël dans le monde. En ce qui concerne la France, si vous avez aussi posé cette question, Israël et la France ont des relations aussi historiques, nous partageons les mêmes valeurs. Il y avait une très bonne visite du Premier ministre Netanyahou il y a 2 mois ici en France. On a parlé d'une manière très très large par rapport à la situation. Et au Moyen-Orient, on partage souvent les mêmes avis, les mêmes positions. Mais ça dépend, il faut voir, il faut analyser chaque sujet et voir exactement où Israël se trouve par rapport à ce sujet.
Voilà. Alors, Nadine Epstein.
Principal sujet qui intéresse Israël, premier chef, l'Union européenne et les États-Unis et le conflit entre Israël et les Palestiniens. Et là, c'est un peu le brouillard, hein. D'un côté, tout le monde dit la solution de 2 États est la solution qui reste. Tout le monde dit les négociations peuvent reprendre, mais personne ne dit ni la méthodologie et quel est l'objectif.
Et merci pour cette question. C'est très important d'accentuer que le sujet ou les relations entre Israël et Palestiniens n'étaient beaucoup mentionnés hier et pendant les discours, à travers les discours. Mais en même temps, Israël a montré depuis toujours sa volonté de parvenir à la paix avec les Palestiniens. Netanyahou a appelé Mahmoud Abbas de venir s'asseoir autour de la table des négociations et commencer un dialogue. Cette position est encore valide. Netanyahou l'a mentionné hier dans son discours. Mais malheureusement, on ne voit pas encore des résultats. Mais le fait que les émissaires américains se trouvent sur place, ils rendent visite en Israël et dans l'autorité palestinienne assez souvent les derniers mois, montre qu'il y a un certain dialogue, il y a un certain dynamisme. Il faut espérer que ça va évoluer et ça va commencer un dialogue direct. Ce qui était toujours le principe et toujours le point qu'Israël a souligné, un dialogue direct. On ne peut pas discuter à travers la communauté internationale, on ne peut pas imposer des solutions sur Israël. Israël a montré auparavant qu'à travers des négociations directes, comme il était le cas avec l'accord de paix avec l'Égypte, que cette année, ces jours-ci, nous fêtons 40 ans de cet accord de paix avec l'Égypte, on peut avancer les relations, on peut parvenir à la paix. Mais pour parvenir à la paix, il faut saisir, il faut stopper l'incitation à la haine contre Israël, il faut stopper, soutenir des terroristes palestiniens, il faut s'engager vraiment dans ces négociations.
Êtes-vous prêt demain à œuvrer pour un État palestinien ? Est-ce que l'équation la terre contre la paix, ça tient toujours ou il y a une autre donnée ?
Je pense qu'on ne peut pas maintenant entrer dans les détails des négociations et ça, ce n'était pas le cas. Ce n'est pas à moi ici de donner toute la formule comment on peut arriver à la paix. Il faut tout d'abord s'asseoir autour de la table, discuter et discuter sur tous les sujets qui sont pertinents par rapport à cet accord. Et les sujets sont connus. Il n'y a pas un grand changement par rapport à ces sujets Et si on compare la situation il y a 20 ans pendant le processus d'Oslo, ou après Camp David, ou après Annapolis, ou aujourd'hui, mais on ne peut pas vraiment avancer les choses. Après pas peu d'années qu'il n'y avait pas de dialogue direct, qu'il y avait des attentats terroristes, qu'il y avait une tension très très inquiétante, il faut au moins d'un côté et montrer qu'on est prêt de parvenir à la paix, qu'on est prêt de s'asseoir et discuter directement, que ne pas intéressé à la incitation à la haine contre Israël ou la finance de terroristes qui ont montré leur application et leur lien avec contre Israël.
Dernière question d'ailleurs.
Concernant la Syrie, plusieurs fois Israël est intervenu dans le conflit, soit pour aider des blessés par le biais de l'armée libre syrienne, mais également pour des objectifs militaires.
Oui, tout à fait. Et malgré le fait qu'Israël et la Syrie sont des pays hostiles, et lorsqu'il s'agit des nécessités humanitaires, et Israël n'a pas demandé à ceux qui sont venus vers sa frontière s'il appartient à ce groupe ou à un autre, il s'agissait des personnes blessées qui ont demandé d'être traitées. Alors, jusqu'à aujourd'hui, on peut dire que plus que 30 000 Syriens étaient traités dans les hôpitaux israéliens, et ils sont rentrés en Syrie. En ce qui concerne les lignes rouges dont vous venez de parler, oui, Israël a dit en plusieurs reprises qu'Israël ne va pas supporter les livraisons des armes de l'Iran vers Hezbollah à travers la Syrie, et qu'Israël ne va pas supporter aucun développement et près de la frontière israélienne qui risque la sécurité de la population israélienne.
Un tout dernier mot sur un autre sujet, le meurtre de Sarah Halimi, puisque le parquet a demandé que le caractère antisémite soit finalement retenu. Dans un premier temps, la justice avait décidé de ne pas retenir cette qualification antisémite pour ce meurtre qui avait provoqué un vif émoi. Ça vous paraît une décision satisfaisante pour vous, et comment vous ressentez la crise ou le malaise qui a pu exister après cet attentat et d'autres assassinats?
Tout à fait. Pour nous, c'était très clair du commencement qu'il s'agissait d'un attentat antisémite ou d'un cas antisémite. Et c'est très bien que maintenant, on a réalisé aussi qu'il faut traiter ce sujet ou ce cas selon les critères dans l'antisémitisme. Alors c'est bien que c'est arrivé malgré le fait que c'est un peu tard, et c'est en ce qui concerne le cas et en soi-même, c'est très triste qu'en 2017, il y a encore des cas où des gens innocents, des femmes innocentes sont tuées parce qu'ils sont juifs.
Aliza Bin-Noun, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ambassadrice d'Israël en France, la ville de Mexico a donc été frappée par un très violent séisme. 217 morts dans le centre du pays, dont 21 enfants ensevelis. C'est un bilan provisoire. Et l'ouragan Maria s'abattait ce matin sur les îles Vierges américaines après avoir tué au moins 2 personnes dans les Caraïbes. Les vents déchaînés accompagnés de trompes d'eau menacent désormais Porto Rico. En France, en métropole, un temps plus doux, plus ensoleillé, température de 15 à 25 degrés. Du Nord au Sud, édition réalisée avec Yacine Bouzard, prochain journal 18h, Aurélie Kiffer.